France Info. Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour.
Les tarifs de l'électricité vont donc bondir demain de près de 6% pour la grande majorité des Français. Le gouvernement ne pouvait rien faire.
Les tarifs de l'électricité, comme vous le savez, ils sont fixés par une autorité indépendante, ça s'appelle la CRE, Commission de Régulation de l'Énergie. Et c'est elle qui applique une formule de calcul qui elle-même est issue d'une loi de 2010. Donc pour l'avenir, je crois qu'il faudra que le gouvernement agisse, mais pour cet épisode, il faut vraiment respecter la loi. Je rappelle aussi que Ségolène Royal, en 2014, avait dit « je refuse d'appliquer cette formule de calcul et cette loi ». Et sa décision a été attaquée devant la justice, l'État a perdu. Et la hausse a été obligée de s'appliquer avec en plus 18 mois de rétroactivité. Donc là, nous devons appliquer la loi.
Et on se souvient aussi qu'en décembre dernier, au plus fort de la crise des Gilets jaunes, vous aviez gelé une hausse qui était prévue à l'époque. Donc là, il n'y a pas une forme de rattrapage. Finalement, ce qu'on pensait, la bonne nouvelle de l'hiver devient une nouvelle plus difficile à la fin du printemps.
Nous l'avons décalé. C'est vrai que cette hausse aurait pu s'appliquer dès février et que la marge de manœuvre que nous avions dans le respect des textes, c'était de pouvoir le décaler un peu. Donc ça a été décalé jusqu'à juin, mais nous ne pouvons pas le stopper plus. Les réponses que nous apportons sont aussi des réponses de pouvoir d'achat. Toutes les mesures qui ont été décidé en décembre puis en avril. D'ailleurs, l'INSEE dit que le pouvoir d'achat des ménages augmente. Et enfin, le chèque énergie, si vous le souhaitez, on y reviendra. C'est 6 millions de ménages qu'on aide à payer leurs factures d'énergie.
Emmanuel Wargon, écoutez ce que dit au sujet de cette hausse à venir de l'électricité le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
On va avoir une augmentation de l'énergie qui est sans rapport avec le coût de l'inflation et l'évolution des salaires. Ils attendent quoi? Que les gens se remettent en colère? Qu'il y ait des augmentations de l'énergie, ça peut se comprendre. Mais en France, c'est les taxes qui bouffent tout. C'est les taxes. Et à chaque fois, il y a un gagnant, l'État, qui s'en fout plein les poches. Et il y a un perdant, le consommateur, le Français, à qui on vide les poches.
Donc si on écoute Xavier Bertrand, il y avait un moyen simple de s'opposer à cette hausse, c'était de baisser les taxes.
Alors Xavier Bertrand, il est complètement irresponsable dans cette prise de parole. D'abord parce que ce ne sont pas les taxes qui augmentent. Le prix de l'électricité, c'est un tiers de taxes, deux tiers de prix de l'énergie elle-même et puis du prix de l'acheminement et des transports. Là, c'est vraiment le tarif de l'énergie elle-même qui augmente. Donc non, l'État ne s'en fout pas plein les poches. L'augmentation n'a rien à voir avec les taxes. Ça n'est pas une augmentation de taxes. Donc Xavier Bertrand fait un mélange, une approximation. Et par ailleurs, il faisait partie d'un gouvernement qui aurait pu changer cette loi. Cette loi, elle date de 2010. Donc c'est facile après de nous expliquer que l'État fait n'importe quoi.
Une partie de la hausse, aujourd'hui environ 40%, est liée à l'ouverture à la concurrence du secteur, puisqu'on demande à EDF de vendre son électricité plus cher pour que les concurrents aujourd'hui puissent la vendre moins cher. Est-ce que c'est pas complètement paradoxal que l'ouverture à la concurrence aboutisse pour les Français à du courant plus cher dès demain?
Si, c'est complètement paradoxal. Je vous rejoins complètement. La formule de calcul qui s'appliquait, qui avait du sens quand il y avait très peu de concurrence, mène à ces effets contradictoires, paradoxaux, à savoir l'augmentation des tarifs est due à la volonté de préserver ou de favoriser la concurrence.
Et c'est la raison pour laquelle... La concurrence qui devait faire baisser les prix, aujourd'hui les fait augmenter.
C'est un mécanisme de calcul compliqué qui arrive à un résultat qui ne va pas. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle, moi je suis convaincue qu'il faut changer cette formule de calcul.
Donc c'est la dernière fois que ce mode de calcul s'applique?
En tout cas, il faut qu'on y retravaille. Le gouvernement va y retravailler. Il y a une loi énergie qui arrive portée par François de Rugy. Moi, je vous dis, de mon point de vue, cette formule de calcul, elle n'a plus de sens.
Alors, dans les changements à apporter au tarif d'EDF, il y a une autre piste qui a été évoquée par votre ministre de tutelle, François de Rugy. Il a critiqué le fameux tarif agent d'EDF qui est appliqué donc aux salariés d'EDF et qui leur permet seulement de payer environ 10% du prix que payent les autres consommateurs. On l'écoute.
Tous les ans, la Cour des comptes dénonce le fait qu'à EDF, il y a les salariés d'EDF qui payent 10% du prix de l'électricité. Eh bien, peut-être que le PDG d'EDF pourrait changer cela.
Il va supprimer, vous allez supprimer cet avantage accordé aux salariés d'EDF. Et chaque année, la Cour des comptes EDF doit provisionner de façon à financer cet avantage.
Le ministre a raison quand il dit que chaque année, la Cour des comptes, dans son rapport, à chaque fois qu'elle se penche sur ce sujet, dit cet avantage, c'est un avantage d'un autre temps.
Donc vous demandez au PDG d'EDF de le supprimer?
Après, il me semble que c'est un sujet de négociation sociale à l'intérieur de l'entreprise EDF. Et par ailleurs, il n'y a pas de lien direct entre cet avantage et l'augmentation telle qu'elle a lieu. Les volumes ne sont pas les mêmes. Mais c'est aussi une question d'équité et de justice. Et ça doit être rediscuté à l'intérieur de l'entreprise EDF.
La position de l'État actionnaire.
Et les salariés.
La position de l'État actionnaire, qui est actionnaire à plus de 80% d'EDF, c'est de dire oui, il va falloir rogner ou supprimer ces avantages.
Non, la position, c'est simplement de dire cet avantage est dénoncé par la Cour des comptes. Il faut peut-être se repencher dessus, mais encore une fois, dans une discussion entre les syndicats, les représentants sociaux à l'intérieur de l'entreprise et la direction de l'entreprise.
Emmanuel Wargon, on envisage déjà une nouvelle hausse après celle qui doit intervenir demain, sans doute pour le mois d'août. Est-ce que vous pouvez le confirmer ou pas ?
Non, je ne confirme rien à ce stade. Cette histoire de formule de calcul se réapplique normalement deux fois par an, donc la question se repose en août, mais je n'ai pas les chiffres et les montants, donc pas d'annonce à ce stade.
Vous ne la confirmez pas, mais est-ce que vous pouvez l'exclure cette hausse en août ?
Non plus.
Donc c'est une hypothèse crédible.
Tant que le mécanisme n'a pas changé, tant que nous n'avons pas touché à la loi et tant que nous n'avons pas revu la manière dont le prix de l'électricité est fixé, à la fois pour les tarifs réglementés, donc pour près de 25 millions de ménages, et pour le reste des consommateurs, il est possible qu'il y ait une nouvelle hausse. Après, je voudrais juste mentionner que le prix de l'électricité pour les ménages reste moins cher en France qu'en Europe. Il est environ 15% moins cher que la moyenne européenne.
Mais il a bondi d'environ 35% depuis 10 ans.
Oui, mais il reste moins cher. Il reste plus de 25% moins cher qu'en Allemagne, à peu près pareil en Italie. Donc ça augmente trop vite. Cette formule doit être changée. Mais le prix reste moins cher que nos principaux concurrents européens.
L'État, les gouvernements français ont longtemps professé la production nucléaire d'électricité au prétexte que c'était une énergie à bas coût. C'est plus le cas quand on voit que les prix se sont envolés de 35% depuis 10 ans.
Le prix du nucléaire reste raisonnable, c'est vraiment le mécanisme qu'il faut revoir.
Il ne justifie plus en tout cas des prix, une électricité à bas coût, c'est plus le cas.
Ça sera le cas si on change le mécanisme.
Et un dernier mot sur ce thème, si hausse il y a au 1er août prochain, le gouvernement se garde la possibilité de la geler comme il a pu le faire pour la précédente ou pas ?
Je ne souhaite pas me prononcer sur ce qui se passera en août.
Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait deux hausses à deux mois d'intervalle de l'électricité des Français ? Une en juin, une en août ?
C'est pas souhaitable, mais je ne peux pas me prononcer sur ce qui se passera en août à ce stade.
Emmanuel Wargon, vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va s'interrompre quelques instants pour le rappel de l'actualité. Il est 9h20, c'est Stéphane Milhomme qui nous la résume.
Et les recherches doivent reprendre ce matin autour du fleuve Rhin pour retrouver la fillette de 4 ans portée disparue dans le secteur de Gerstheim. Cet enfant se trouvait hier matin sur le canot pneumatique qui a chaviré. 3 personnes sont déjà mortes, dont une autre petite fille âgée, elle, de 6 ans. La colère du syndicat Alliance ce matin sur France Info. Pour Loïc Travers, le responsable Île-de-France du syndicat, c'est une drôle de publicité que de jeter les policiers en pâture alors qu'ils sont éreintés par ces violences. Le procureur de Paris, Rémi Hetz, annonce ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, des policiers seront bien jugés en correctionnel pour des violences commises pendant les récentes manifestations de Gilets jaunes. 2 jours après la décision de la justice française de se saisir du litige de la famille Hallyday concernant l'héritage du chanteur, son épouse Laetitia veut demander la nationalité américaine. Une annonce hier de son avocat. Elle assure que Johnny avait aussi prévu de le faire. Et puis la seule clinique pratiquant des avortements dans le Missouri menacée de fermeture. Les responsables du centre de soins de cette ville américaine de Saint-Louis sont dans l'attente d'une décision de justice aujourd'hui pour la sauver. La suite du vote très restrictif la semaine dernière à la demande d'élus conservateurs concernant l'interruption volontaire de grossesse.
La secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Emmanuel Wargon, est notre invité jusqu'à 9h, Renaud Dely.
Pour financer les baisses d'impôts qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, le gouvernement envisage de supprimer certaines niches fiscales qui profitent aux entreprises. Parmi ces niches fiscales qui sont dans le viseur du gouvernement, il y en a une qui porte sur le gazole non routier. C'est un crédit d'impôt d'1 milliard d'euros à peu près qui bénéficie principalement aux entreprises de travaux publics. Est-ce que vous allez supprimer ce crédit d'impôt qui porte sur le gazole non routier et qui est jugé, y compris par des membres de la majorité, comme, je cite, une horreur sur le plan de l'environnement ?
En fait, toute la question, c'est d'arriver à trouver une politique économique et fiscale qui soit juste et équitable à la fois entre les contribuables et pour le respect de nos engagements écologiques et la lutte contre le réchauffement climatique. Ce gazole non routier, c'est une aide fiscale pour payer moins cher le gazole pour le secteur du bâtiment, par exemple. Et d'un côté, c'est un élément important pour la compétitivité et puis pour la marge de ces entreprises, qui parfois sont petites. Et de l'autre, on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes et pendant le grand débat, les Français ne comprennent pas, et ils ont raison, que certains soient taxés, notamment tout le monde quand on passe à la pompe pour l'essence ou pour le diesel, et que certains secteurs économiques ne le soient pas. La réponse, c'est forcément une réponse en plusieurs temps. On ne peut pas y aller en une seule fois. Si nous revenons sur cet avantage, il faudra le faire avec plusieurs paliers. Je sais que Bruno Le Maire y travaille, a reçu les professionnels du secteur.
Vous le souhaitez ? Vous souhaitez qu'on le revoie à la baisse donc, et qu'on supprime progressivement cet avantage sur les gazoles routiers ?
Moi, il me semble que ça a du sens de ne pas taxer différemment les ménages et les entreprises, parce que la pollution, elle est émise de toute façon par les véhicules et l'effet de serre ne fait pas de différence pour savoir qui utilise de l'essence ou du diesel, que ce soit un ménage, un particulier ou une entreprise. Simplement, ça ne peut être que progressif parce que nous devons penser à la compétitivité, simplement au bon fonctionnement de ces entreprises et à la préservation de l'emploi. Donc c'est un équilibre à trouver, mais moi cette question me paraît légitime.
Emmanuel Wargon, le Premier ministre Édouard Philippe va livrer un nouveau discours de politique générale dans quelques jours, le 12 juin prochain. Est-ce que vous souhaitez, à cette occasion, et au vu des résultats des élections européennes, qu'il verdisse un peu son discours ?
Moi, depuis que j'ai été nommée en octobre dernier, avec François de Rugy, avec Brune Poirson, je me bats pour que l'écologie soit la plus possible au cœur du programme du gouvernement.
C'était pas gagné.
C'est de plus en plus le cas. Le grand débat nous a aussi montré que la transition écologique, les Français voulaient la faire. Vous vous souvenez que la remise en cause de l'augmentation de la taxe sur l'essence et le diesel était très forte. Et d'ailleurs, nous avons gelé cette augmentation, nous l'avons arrêtée. Mais dans le grand débat, les gens nous ont dit, si, la transition écologique, il faut la faire, c'est important. Et puis, on a le résultat des européennes, avec un mouvement écologique très haut.
Donc, le score de Yannick Jadot vous a surpris.
C'est bien la preuve, je finis juste, qu'il y a une demande très forte que l'écologie, l'urgence climatique, la biodiversité soient bien au cœur de l'action. Donc il faut y répondre. Le président l'a déjà dit dans sa conférence de presse de sortie du grand débat. Je pense que c'est très important et je sais que ce sera le cas.
Vous le remerciez,
que Édouard Philippe le dise dans sa... Je finis juste. C'est très important qu'Édouard Philippe, je finis parce que je réponds à la question, le dise dans sa déclaration de politique générale.
On va essayer de poser les questions les unes après les autres. Voilà, Renaud Delia.
Mais vous le remerciez, Yannick Jadot ? Pour son succès, ça va vous aider justement. Il vous aide.
Moi, je pense qu'à chaque fois que l'urgence écologique s'exprime, que ce message est porté, que ce soit par des jeunes dans des marches ou dans les élections, disant les gouvernements doivent de plus en plus, les dirigeants, mettre l'écologie au cœur de leur programme, pas l'écologie à côté. On a un programme économique et social, et puis l'écologie, c'est quand on peut. Mais on a un programme économique, social et écologique. On n'oppose pas ces trois dimensions. Il faut inventer un modèle économique nouveau qui soit écologique. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la planète. Ça nous pousse. C'est un aiguillon pour nous. Et les aiguillons, c'est très sain.
Ça va aider le gouvernement à se verdir. Et le Premier ministre, donc, à verdir son discours de politique générale, ce succès d'Yannick Jadot.
Ça n'est pas uniquement le succès de Yannick Jadot. Le Premier ministre, le Président de la République l'ont dit pendant les 6 derniers mois, je vous renvoie au discours du Président lors de sa conférence de presse, l'idée de mettre l'écologie vraiment au cœur de l'action, c'est une idée qui est là, qui est dans le programme de La République En Marche. Je vous rappelle aussi que pour les Européennes, c'était le premier point de la liste Renaissance. Pascal Canfin, écologiste, était numéro 2 de cette liste. Donc ça n'est pas stricto sensu Yannick Jadot, mais à chaque fois que les Français expriment un message pour l'écologie, c'est une bonne nouvelle.
Est-ce que vous pensez que les députés de la liste Renaissance, élus dimanche prochain, pourront, sur les bancs du Parlement européen, travailler avec les élus écologistes de la liste Yannick Jadot ?
Je l'espère vraiment. D'ailleurs, nous l'avons demandé. Il y a une main tendue de Nathalie Loiseau, de Pascal Canfin et de toute la liste pour travailler ensemble. Les écologistes font des distinctions que je trouve un peu subtiles entre alliance, coalition, oui dans certains cas, non dans d'autres. Nous, nous voulons travailler sur le fond. Sujet par sujet, nous espérons que nous aurons une majorité avec les écologistes pour avancer, quel que soit le nom qu'on lui donne.
Alors vous le souhaitez, Emmanuel Wargon, mais Yannick Jadot, qui était notre invité ici même à votre place lundi, au lendemain de son succès lors des élections européennes, il vous a par avance répondu.
Le groupe que vont rejoindre les députés En Marche, c'est quand même le groupe qui soutient tous les accords de libre-échange. C'est le groupe qui nous a combattus sur toutes les grandes avancées écologiques. Donc on ne va pas faire de coalition avec les libéraux.
Il veut pas travailler avec vous, Yannick Jadot. Les écologistes ne feront pas de coalition avec les libéraux, le groupe auquel appartiendront les élus de La République En Marche.
Il va y avoir une vraie reconfiguration des alliances au Parlement européen parce que La République En Marche intègre le groupe des libéraux qui lui-même va changer. La République En Marche arrive avec un programme, avec l'écologie en premier point de son programme. Il faudra regarder la plateforme du nouveau groupe dans lequel nous serons, ce groupe des libéraux qui peut évoluer. Et après, moi j'appelle Yannick Jadot à regarder programme et plateforme. Et puis il se décidera en conscience avec qui il veut faire alliance, avec qui il veut travailler, quels sont les sujets qu'il veut pousser ?
Aujourd'hui, il ne vous fait pas confiance. Il ne fait pas confiance au gouvernement, notamment au vu de la pratique du gouvernement depuis 2 ans.
Vous avez raison. Aujourd'hui, le gouvernement doit montrer son engagement, sa crédibilité sur les sujets économiques, écologiques, économiques d'ailleurs, mais écologiques, à travers des actes. Et c'est la question qui nous est posée. C'est la question qui nous est posée par Yannick Jadot, qui nous est posée aussi par les Français. Moi, je prends cette question et cette responsabilité au sérieux. Nous devons montrer que nous savons faire avancer les dossiers écologiques à la bonne vitesse, avec la bonne intensité.
Alors prenons un exemple concret, si vous voulez bien, Emmanuel Wargon, celui de la Montagne d'Or en Guyane. On ne comprend pas si ce projet est toujours sur la table ou pas. Il y a eu des déclarations du chef de l'État disant « en l'État, c'est pas acceptable pour l'instant ». Est-ce que ça se fera ou pas ?
Le projet Montagne d'Or, oui. C'est un projet porté par un consortium. C'est un projet qui n'a même pas été vraiment déposé, c'est-à-dire il n'y a pas de dossier. Nous, ce que nous disons, c'est que lorsque le consortium déposera un dossier pour ce projet, nous dirons ce projet, parce qu'il est massif, parce qu'il est trop intrusif, il ne va pas. Nous n'accepterons pas le projet Montagne d'Or qui va éventrer la forêt amazonienne en Guyane et qui n'a aucun sens écologiquement parlant. Donc Montagne d'Or, même s'il n'y a pas d'objet déposé, ça ne se fera pas. Ça a été dit par François de Rugy, ça a été dit par Brune Poirson, ça a été dit par le président de la République lorsqu'il a reçu les scientifiques de l'IPBES, le grand consortium international de scientifiques sur la biodiversité, et j'étais là, ça
il
ne
n'y aura
se
pas
fera
de nouvelles
pas.
Mines d'or en Guyane dans les années qui viennent.
Après, si un jour, quelqu'un d'autre arrive avec un projet complètement différent, on le regardera avant de donner un avis. Mais tout projet qui limite la biodiversité, détruit de la biodiversité, détruit la forêt amazonienne, simplement pour une exploitation non raisonnable de l'or, tout projet de ce type-là ne se fera pas.
Merci à vous, Emmanuel Wargon. Vous restez avec nous, il est 9h10. C'est Stéphane Milhomme pour le rappel de l'actualité.
Des policiers seront bien jugés pour des violences commises pendant les manifestations de Gilets jaunes. La promesse du procureur de Paris dans une interview au Parisien aujourd'hui en France. Rémi Hetz évoque 171 enquêtes actuellement entre les mains de la police des polices. Réponse et colère ce matin sur France Info du syndicat Alliance pour un représentant Loïc Travers. Jusqu'à preuve du contraire, les policiers ont utilisé la force légitime, ce qui n'est pas le cas des casseurs qui ont utilisé la force illégitime. Des Brésiliens, une nouvelle fois dans la rue pour défendre l'éducation, étudiants et enseignants étaient des dizaines de milliers hier à manifester contre les coupes budgétaires du gouvernement Bolsonaro, l'équivalent d'1 milliard d'euros au détriment des universités. 4 Français aujourd'hui à l'affiche de Roland-Garros, début du 3e tour avec Benoît Paire, Nicolas Mahut et Corentin Moutet, jeune espoir de 20 ans. Et puis Lucas Pouille lui achèvera son match du 2e tour, il a été interrompu par la nuit. Le tabac est responsable de la mort de plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde, d'où l'importance, comme tous les ans, de ce 31 mai, journée mondiale sans tabac, avec des initiatives pour arrêter de fumer. À Paris, par exemple, 52 parcs et jardins vont devenir des lieux non fumeurs à partir du 8 juin.
La secrétaire d'État Emmanuel Wargon est avec nous jusqu'à 9h et les questions de Renaud Dely.
Le député de la France Insoumise de la Somme, François Ruffin, a déposé une proposition de loi, Emmanuel Wargon, une proposition de loi qui vise à interdire en France toute ligne aérienne intérieure sur lesquelles le train permet de faire un temps de trajet à peu près équivalent à ce qu'une ligne intérieure d'avion fait en France, entre 2h30 et 3h, de façon à limiter évidemment les émissions de CO2. Est-ce que c'est pas une piste intéressante ? Il y a d'ailleurs certains de nos voisins, la Belgique, les Pays-Bas, qui travaillent en ce sens.
Moi, il me semble qu'on avait envie de sortir de l'écologie punitive. Donc, toute mesure d'interdiction générale qui dit aux Français comment vivre et qui l'impose d'en haut, je ne crois pas que ça marche. Qu'on ait une question sur le kérosène et comment est-ce qu'on fait pour mieux taxer le kérosène, ça, c'est une question qui a du sens et qu'on va traiter au plan communautaire. Mais moi, je crois que ce que nous ont dit les Français, c'est aidez-nous à changer nos comportements en nous appuyant dans nos choix et pas en portant une interdiction générale.
Là encore, il s'agit de trajets qui peuvent être faits en train dans la limite maximale de 2h30 à 3h. Est-ce que c'est pas raisonnable d'inciter, voire d'empêcher les Français de prendre l'avion pour des trajets d'une ou 2 heures et plutôt de les inciter à prendre le train ?
Mais vous avez dit inciter, donc... Montrer aux Français que dans certains cas, c'est mieux de prendre le train que l'avion, qu'on peut passer 2 heures ou 2 heures et demie ou 3 heures dans un train plutôt qu'une heure dans un avion, oui. Après, vous avez des gens avec des correspondances, vous avez des tas de cas particuliers. La question précise qui est interdiction. Non, je pense que ça n'est pas la bonne mesure et qu'on devrait limiter au maximum les interdictions. Mais d'une certaine manière, il me semble que c'est une question qu'on pourrait aussi poser à la Convention des citoyens sur le climat.
Alors, on allait y venir. C'est l'une des nouveautés annoncées par Emmanuel Macron, c'est 150 citoyens tirés au sort. Ça commence quand ?
Ça va commencer en juin ou en juillet. Les mécanismes de tirage au sort vont commencer. Et c'est intéressant parce qu'on demande à des citoyens de nous aider à définir quel est le bon mix, justement, entre incitation, interdiction, fiscalité, comment faire changer les comportements. Mais on ne se pose pas la question tout seul au gouvernement, on se pose la question avec des citoyens. Je vais vous donner un exemple concret. Il faut qu'on avance sur la rénovation du bâtiment. Parce que la rénovation du bâtiment, c'est probablement le chantier sur lequel on peut être le plus efficace pour lutter contre le changement climatique. Rénover les bâtiments, mieux isoler, c'est consommer moins d'énergie. Donc c'est à la fois bon pour le porte-monnaie et c'est à la fois bon pour la planète.
Et ça, il vous faut un conseil de citoyen pour le savoir.
Sur ces sujets-là, c'est intéressant de pouvoir discuter avec les citoyens sur deux choses. La première, c'est qu'on a plein d'aides, mais elles sont trop compliquées. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout notre système d'aide ? Parce qu'on a beaucoup d'incitations, mais beaucoup de guichets, beaucoup d'acteurs. Donc il faut vraiment qu'on améliore, et ça du point de vue du consommateur, si je peux dire. Et après, la deuxième question, c'est est-ce qu'à un moment, il faudra un régime de contraintes ? Et là, c'est pas une décision qu'on prendra tout seul. Donc je trouve que passer par la discussion avec les citoyens, comme on l'a fait finalement à travers le grand débat, c'est aussi une bonne manière d'avancer.
Est-ce que ce conseil de citoyen sera simplement consultatif ou est-ce qu'il aura le dernier mot quand il aura pris une position ?
Alors le président de la République l'a dit très clairement dans sa conférence de presse. Il a dit les décisions de ce conseil seront transmises sans filtre, soit au Parlement, soit même par référendum.
Mais transmises sans filtre au Parlement, ça veut dire qu'il y a un filtre au final.
Quand il dit sans filtre, ça va pas dire la majorité
et les députés sont obligés de revoter exactement ce qu'on leur propose.
On n'a pas créé une assemblée constituante de gens qui peuvent faire la loi. Mais transmise sans filtre, ça veut dire lorsque leur proposition sera prête, elle sera soumise sans changement au Parlement ou par référendum.
Par exemple, ça veut dire qu'on passe de
150 citoyens à un référendum.
Si les citoyens décident qu'il faut augmenter les prix des carburants, vous augmenterez les prix du carburant.
Si les citoyens décident qu'il faut augmenter les prix du carburant, nous proposerons au Parlement de le faire ou aux Français de le voter par référendum. Ça doit s'appliquer par la loi.
Il y a un principe qui a été posé aussi par le gouvernement à ce conseil de citoyens, c'est qu'en face de chaque dépense supplémentaire, il faut qu'il y ait une recette supplémentaire.
Mais on ne peut pas à la fois nous dire « il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes, le budget de l'État est trop important, il faut baisser la dépense, il faut baisser les impôts » et dire à un conseil de citoyens « vous pouvez décider de multiplier par 2 ou par 3 les subventions, les aides, mais le financement, on trouvera ». On trouvera, ça n'existe pas. Une dépense nouvelle égale un financement nouveau. Et dans le discours de politique générale du Premier ministre, il y aura bien sûr l'intention de baisser les impôts et de baisser les dépenses. Si après les citoyens nous disent « c'est vraiment important, on a besoin de plus », il faut travailler avec eux sur la dépense et sur la manière de la financer.
Donc il peut y avoir de nouvelles taxes à l'arrivée, notamment le retour de la taxe carbone ?
Encore une fois, c'est un dialogue avec 150 citoyens tirés au sort qui feront des propositions. Ces propositions sont ensuite soumises à la représentation nationale ou à tous les Français.
Ça ne reviendra pas en catimini. Ça veut dire que le gouvernement n'a plus de position sur ce sujet de la taxe carbone.
Ça veut dire que le gouvernement revient devant des citoyens pour construire une position dans un exercice démocratique assez nouveau, assez innovant et qui va être vraiment passionnant, je pense.
Vous nous dites donc que le tirage au sort aura lieu très rapidement, juin, juillet, constitution de ce conseil. Les résultats, c'est pour quand ?
On imagine qu'il faut quelques mois de travail. Je ne crois pas qu'on ait une date précise de sortie, mais c'est l'affaire de quelques mois.
C'est cette année, a priori ? C'est pour cette année ou ça peut durer jusqu'à la fin du quinquennat
et on peut dire comme ça. Non, quelques mois. La fin du quinquennat, c'est plus que quelques mois.
Ça ne nous a pas échappé. Renaud Dely.
Et ça veut dire qu'on peut donc avoir, vous n'avez pas exclu cette hypothèse, un référendum qui porte sur ces questions, par exemple, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine ?
Oui, il est possible d'avoir un référendum sur des propositions issues de la Convention citoyenne.
C'est une leçon du mouvement des Gilets jaunes et de la crise que vous avez traversée depuis l'automne dernier ?
C'est un enseignement du mouvement des Gilets jaunes et de toute cette période de débat national, parce que les Français nous demandent d'arrêter de penser à leur place, de construire avec eux, en particulier quand on touche à leur quotidien.
C'est ce que vous faisiez au début ?
Moi, il me semble que c'est probablement l'un des points les plus importants. Moi, j'ai entendu une demande de respect et de considération, une demande de justice, une demande de proximité. Donc c'est ce qui va s'exprimer dans cette convention citoyenne, mais c'est aussi ce qui va s'exprimer dans l'acte 2 du quinquennat. Ça a déjà été dit par le président, ça sera très probablement redit par le Premier ministre. Une nouvelle période du quinquennat dans laquelle on est plus en proximité avec les Français, dans laquelle on comprend mieux comment les gens vivent partout sur le territoire, dans laquelle on n'essaye pas d'imposer des décisions par le haut et où le service public est là en appui. C'est l'ambition de cette nouvelle phase du quinquennat.
Merci à vous Emmanuel Merci. Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous étiez ce matin l'invité de France Info. Merci.